Bonjour et merci d'être présent pour ce nouveau café littéraire, une rencontre évidemment importante comme chaque année maintenant depuis 3 ans. Les auteurs du pays invités se retrouvent autour d'une même rencontre pour évoquer justement ce pays invité, sa littérature et quelques-uns de ses meilleurs auteurs. Alors merci à tous les quatre, à Herbert Carré, Mike Carré, Kim Newman, Charles Strauss, Christopher Priest. Chacun à votre façon, avec évidemment votre personnalité, vous apportez quelque chose à la science-fiction et à la fantaisie britannique, et évidemment au-delà à tous les lecteurs qui aiment cette littérature d'imaginaire. J'avais titré ce café littéraire, les auteurs britanniques nous en mettent plein la vue, parce qu'il faut trouver un titre simplement, mais aussi parce que c'est vrai. C'est que comme lectrice, bien avant d'être directrice artistique de festival, j'ai eu le plaisir de rencontrer ces auteurs, certains, il y en a très longtemps, une bonne partie de la salle n'était pas née, et d'autres plus récemment. Je commencerai à tout seigneur, tout honneur, par Christopher Priest, qui est un des auteurs historiques et emblématiques de l'imaginaire, et en particulier de la science-fiction britannique. Je dirais, pour résumer, que cette science-fiction britannique, cette fantasy britannique, a le talent des raconteurs d'histoire, a l'humour, a parfois le côté déjanté, ça sera pour Charles Strauss, a une façon originale de traiter les sujets pourtant déjà rebattus parfois, comme le zombie, on le verra avec Mike Carré, et puis ces auteurs avec parfois l'humour si british, qui parfois est un peu une légende, mais qui, dans le cas de Kim Newman, est à l'évidence une réalité dans ses ouvrages, avec ces mondes un peu décalés, moitié victorien, moitié vampire, moitié 14-18. Voilà, pour résumer très brièvement. Et donc, Christopher Priest, je l'ai découvert en 1979, en découvrant les genres de l'imaginaire, n'étant pas tombé dedans très jeune. Et ça a été un choc immédiat. Et depuis 1979, comme lectrice, depuis 1980, comme critique, les choses ont été rapides dans ma passion, mon engagement pour ces littératures. Les livres de Christopher Priest m'accompagnent tout au long de ma vie. Et c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est que ces merveilleux romans vous rendent aussi heureux, enthousiastes, éblouis, parce que c'est une science-fiction ambitieuse, intelligente et jamais ennuyeuse. Alors, Christopher Priest, quand on regarde votre carrière, on part d'un premier roman qui est Le Monde Averti, et puis aussi un roman qui est un hommage à Wells. Vous avez donc commencé par une SF originale mais classique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ces premiers romans ?
It was actually my first book, Saka. Two published before Le Monde Averti. Le Monde Averti was the first to appear there. There is still one that's never been published in France. There's a good reason for that. But the Le Monde Averti tanked in England. Didn't do very good. Bad reviews, didn't sell. Then came out in the USA, where its career in England seemed stellar compared to what the Americans did to it. And then it appeared in France. And all of a sudden I'd found a readership that understood what I was writing about. And so I always loved France for that reason, because I was actually seriously depressed at the time, because I really felt the novel had not been understood. And so thank you, France.
En fait, le Monde Averti n'est pas exactement mon premier livre, j'en ai eu deux avant cela. Le tout premier n'a jamais été publié en France, il y a de bonnes raisons. En fait, quand Le Monde Averti est sorti, il n'a pas eu de bonne, il a plutôt eu de mauvaise critique au Royaume-Uni. Ensuite, il est sorti aux États-Unis, et aux États-Unis, il a fait une carrière. Disons que sa carrière en anglaise pourrait être qualifiée de mirobolante à côté de la carrière qu'il a eue ensuite aux États-Unis. Et en France, il a fini par être sorti, et là, d'un seul coup, il s'est mis à marcher. J'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé un lectorat qui me comprenait. Et j'ai aimé la France, j'aime toujours la France pour cette raison. À l'époque, j'étais vraiment déprimé, j'avais l'impression que le roman n'avait pas été compris. Mais la France l'a compris, donc voici la France.
The Chinese always have a phrase, best revenge, live long. And in one of the reviewers who so hated the inverted world, wrote for the New York Review of Books. And it was probably the worst review I've had in my career. And anyway, we fast forward some 30 or 40 years, and it gave me huge pleasure when the book was reprinted in the USA as a classic by New York Review of Books. And there was only one thing that spoiled the party, which was that I think they did it because they believed I was dead.
Les Chinois ont un proverbe qui dit la meilleure vengeance, c'est celle qui est à long terme.
Aussi, il ne serait pas un peu mort quelque part, Kim Newman, puisque si on prend Anneau Dracula, votre premier roman traduit en France, vous avez un casting sur la couverture et sur ce casting, on nous parle de Geneviève Dieudonné, un nom bien français. Je ne sais pas s'il faut dire Vive la France avec ce personnage, la vampire. Et puis vous avez aussi, au-delà du premier ministre de l'espion, la jeune fille, le chirurgien, Prince Dracula, Sa Majesté. Est-ce que c'est un hommage à l'époque victorienne, un hommage décalé et parfois un peu peut-être caustique, est-ce que c'est un hommage aux vampires, un hommage à Dracula ou finalement un hommage à la littérature?
Yes. To make more, I've never actually said this out loud before, but the lead character, Geneviève Dieudonné, is named after Albert Dieudonné, the guy who played Napoleon in Abba Gance's film. And I think the reason for that is there must have been a book on Gance lying on my desktop while I was picking up the name in the first place. And yeah, the book's an homage to Victorian literature, but I wasn't trying to do a nostalgia book. I wasn't trying to do any looking back at the grand days of pulp literature and Gaslight and Cobblestones and Sherlock Holmes and all that kind of stuff, even though that's in the book. I was looking back and thinking, this is where we start, this is where our contemporary modern age begins. And so what interested me most about the period is all the things where you look at and say, oh, yeah, that's where our horrible cult of celebrity, or that's where our terrible newspapers, they all begin there. And finding so many things, I was writing in the 1980s, so there were, which was a time when Margaret Thatcher was going on and on about Victorian values, by which she meant some kind of industry and commodification of people, whatever. And I was looking back and thinking, I was shoving children up chimneys. That's Victorian values. And what's more, we're still doing it.
Oui, quelque part, toutes ces questions. Et donc, le nom du personnage, je ne sais pas si vous l'aviez deviné, mais je l'ai tiré de Albert Dieudonné, qui est l'acteur qui joue le rôle de Napoléon dans le film d'Abel Gance. Et donc, peut-être qu'à l'époque, je ne me souviens plus exactement, mais peut-être qu'à l'époque, j'avais un livre sur Abel Gance quelque part sur mon bureau, et donc c'est de là que vient le nom de ce personnage. Et pour ce qui est de la période que j'ai choisie et de la manière dont j'ai abordé la problématique, c'est pas nécessairement quelque chose de nostalgique, c'est plutôt ou par rapport à Sherlock Holmes ou par rapport à cette culture, à la littérature victorienne, mais c'est plutôt la recherche des origines. C'est une problématique qui m'échappe, c'est-à-dire que je me demandais d'où venait notre culture. Et
un succès public, celle qui a tous les bons, et c'est évidemment à la fois une mise en scène de personnages de zombies, mais qui ne sont pas des zombies comme les autres, qui sont des enfants qui sont séquestrés dans une institution militaro-policière, et à qui néanmoins on fait classe, et sur qui néanmoins on fait des expériences. Et on en restera là pour ne pas dévoiler la suite du roman. Et entre autres, on va suivre l'institutrice de cette classe très étrange, du militaire qui contrôle la sécurité, de la scientifique qui fait des expériences, et aussi d'une institutrice, mademoiselle Justino, vous voyez, on se rappelle le nom de votre personnage, de Mélanie, la petite femme, la petite zombie, où vous inversez en quelque sorte les valeurs entre qui est le zombie, qui est l'humain. Est-ce que finalement, en mettant en scène une zombie à laquelle on va s'attacher, malgré sa dangerosité, est-ce que finalement, vous ne nous posez pas la question, qu'est-ce que c'est être un être humain ?
Effectivement, c'est bien ce que j'ai essayé de faire, et je pense que c'est toujours le cas dans toutes les histoires d'horreur où on met en scène des créatures qui sont des monstres. Quelque part, à travers ces monstres, on essaie justement de mettre en avant des aspects de la nature humaine sous un angle différent de ce qu'on a l'habitude. Personnellement, quand j'écris, en général, je suis plutôt menée par l'histoire que par les personnages, et dans ce cas-là, ce roman-là est assez unique pour moi, parce que c'est l'inverse. J'ai d'abord eu l'image de cette petite fille, Mélanie, qui se trouvait dans cette institution où on brutalise les enfants, où on la considère plus comme un animal sauvage et dangereux ou comme une munition qui est sur le point d'exploser que comme un enfant. Et elle réagit sans aucune animosité parce que comme un enfant, elle accepte le monde qui l'entoure tel qu'il est. Et ce n'est que quand elle va sortir de cette institution qu'elle va comprendre ce qu'elle est et ce que sont les gens autour d'elle.
J'ai pensé évidemment, en mettant en place cet effet littéraire, à un air britannique, Open Glory, que doivent connaître évidemment nos amis, qui est un peu pompe et circonstance sous cette tradition de Sir Edgar Elgar. Et c'est un peu ça auquel je pense quand je lis la science-fiction, la fantasy britannique originale. C'est partie de la tradition. C'est le cas de Christopher Priest, dont les premiers romans s'appuient quand même sur classique de la SF, cet hommage à la SF historique, et même s'il crée avec le point d'apparti un livre original, on sent qu'il s'appuie quand même sur toute une historique du genre. Je pense que Carré, à sa façon, fait la même chose, puisqu'il s'appuie sur la thématique du zombie qu'on a vu dans Walking Dead et d'autres, et que néanmoins, à partir de là, il nous propose sa vision à lui, du zombie, du personnage et de comment traiter le sujet. C'est vrai aussi avec Tim Newman qui s'appuie sur l'histoire, les zombies 14-18, et qui nous les vampires, on a bien rectifié, et qui lui propose justement, là aussi, une façon décalée de l'aborder. Et malgré tout, j'ai l'impression que le pire de la bande, c'est Charles Strauss. On le qualifie parfois d'auteur déjanté. Est-ce qu'il le perçoit comme une critique ou comme un vrai compliment ? Je pense en particulier à l'un de ses romans, qui est cette reprise. En fait, hommage, quelque part, peut-être satire aussi, à Lovecraft, le bureau des atrocités.
I'm not sure. I tend to be driven by ideas and I get bored
sûr, j'ai plutôt l'impression que je suis conduit par mes idées et que je finis par m'ennuyer assez rapidement.
Also, I write a number of different types of fiction. I try to blur boundaries across genres.
Et aussi, j'écris beaucoup de genres dans beaucoup de genres différents et j'essaie de repousser les limites de chacun de ceux-ci.
I find the whole genre categorization thing restrictive and irritating, frankly.
Je pense que je trouve que cette manie de catégoriser les genres, je la trouve irritante et hors de propos.
I'm here now because my publisher, Edition Piranha, have just released an edition of Accelerando in French for the first time.
Je suis ici parce que mon éditeur, Piranha, vient juste de décider d'éditer Accelerando en français.
Which is really feels very strange because it came out 10 years ago and it took me 5 years to write.
Ce qui est quand même très étrange parce que ce truc, je l'ai écrit il y a 10 ans et ça m'a pris 5 ans pour le faire.
In my writing, it's a bit of an anomaly.
Dans mon écriture, c'est un petit peu une anomalie.
In that it consists of an extended thought experiment about what an American SF is called the singularity.
Someone wants to take this one.
Gosh, that's something I said.
Here you do it again.
It's an extended Ford experiment.
It's an extended Ford experiment. C'est une expérimentation. Une expérimentation de pensée. C'est de mettre l'extension d'une expérimentation de pensée.
About the accelerating rate of change.
À propos de l'accélération du rythme de changement.
In terms of characterization or plot, it's just not really there.
En termes de personnage ou d'intrigue, c'est pas vraiment là.
It was just open the fire hose of ideas.
C'était juste histoire d'ouvrir les vannes aux idées pour voir jusqu'où ça va.
A lot of my other fiction is a bit more restrained on that dimension. It's just overflowing the bathtub of ideas rather than the fire hose.
Et beaucoup de reste de ma fiction, c'est plutôt, c'est un petit peu l'inverse. Alors, c'est un petit peu l'inverse, voilà.
And I am actually trying to write fiction these days with characters.
Et en ce moment, et ces jours-ci, je suis plutôt en train d'essayer d'écrire de la fiction avec des personnages.
Which probably explains why the novel I'm writing at present features elves.
Ce qui explique probablement pourquoi le roman que je suis en train d'écrire en ce moment comporte des elfes.
So, I'll just finish by saying I make no claim to self-consistency.
Alors je vais finir simplement en disant que je ne réclame pas de quelconque consistance ou linéarité.
Justement, Accelerando, en effet, roman écrit il y a déjà un bon moment, qui paraît, c'est parfois les hasards d'édition en France un peu tardivement, et qui est un vrai roman de science-fiction moderne. Je lis un très court extrait. Aujourd'hui, il est diplômé de la pure école d'évitement des caméras de surveillance avec spécialisation dans le montage d'alibis sténographiques. Pour l'essentiel, il s'agit de crimes à haute densité. Si l'on veut braquer quelqu'un, le faire dans un endroit où il y a une telle foule qu'on passera inaperçu. Et les systèmes experts de la police sont sur ses traces. S'ils continuent à ce rythme, ils auront d'ici 4 mois une corrélation statistique positive profonde à convaincre même un jury de ses pairs qu'il est mouillé jusqu'à tout. Et il s'y retrouvera pour 4 ans à la prison d'Edimbourg. Mais Jacques ignore ce qu'est une distribution gaussienne. Il n'a jamais entendu parler du test de Q2, et l'avenir lui paraît toujours radieux, alors qu'il ôte ses grosses lunettes qu'il a piquées à touriste Béa devant la statue sur North Bridge. Et au bout d'un moment, quand elles se mettent à leur murmurer à l'oreille en stéréo et montrer les images du champ virtuel du touriste, cet avenir lui paraît encore plus brillant. Il faut que je passe un deal, que je conclue un deal, murmurer les lunettes, retrouver le bord, claquer un décor. C'est un monde dans lequel les lunettes parlent, passionnant. On se croirait un petit peu chez les Google Glass. Est-ce que finalement, Charles Strauss réflexion d'anticipation, parce que là, on est vraiment dans cet univers-là. Quand on utilise la technique, comme vous l'avez fait dans ce roman, la technologie plus exactement, vous avez quand même, je le rappelle, eu le prix Lucas pour ce roman, ce qui n'est quand même pas rien. Est-ce que vous pensez que c'est ça aujourd'hui, la science-fiction en prise avec les futurs possibles à court terme que doit écrire un écrivain de science-fiction? C'est très simple. Est-ce que quand on écrit un roman à court terme comme un Créando, un auteur comme Charles Cross considère finalement c'est aussi ça l'intérêt de la science-fiction, c'est bien ça à court terme, qui parle de la technologie, de notre rapport à la technologie.
Yes, but rather. Fiction is generally about the study of the human condition through creative lies.
La fiction est généralement, parle généralement de la réalité à travers des visions créatives.
And our tools, our built environments, our activities are all part of the human condition.
Et les outils sont tous une part de la condition humaine.
So, I feel we can't really understand the human condition without looking at the full range of technologies in our environment.
Je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre la condition humaine sans regarder l'ensemble des technologies qu'on a autour de nous.
And what I was trying to do in the early part of this book,
ce que j'essayais de faire dans le début de ce roman,
was to take the scientific and technological trends that I could see around me.
Était de prendre les pistes scientifiques et tout ce qui était technologique autour de moi,
and see what sort of world they would shape in the near future.
Et regarder de quelle sorte de monde elles allaient former dans un futur proche.
And then I took on board the idea of the singularity, the accelerating.
Et donc je me suis raccroché à la singularité et l'accélération du changement.
And tried to extrapolate it through a family saga.
Et j'ai essayé d'extrapoler ça à travers la saga d'une famille, une saga familiale.
Over a period of about 100 years.
Sur une période d'environ 100 ans.
A period of such immense change that each generation of a family. Is effectively a different species.
Une période de tellement grand changement que chaque génération de cette famille est en fait pratiquement une espèce nouvelle, différente.
On va partir dans un tout autre univers avec Q Newman. Petit extrait là aussi pour entendre un petit peu le roman. Saviez-vous comment ça l'entreprenne qu'il y a des gens sur ces îles dont la seule objection au mariage de notre chère Victoria Regina, impératrice des Indes, etc., avec Vlad Dracula, connu sous le nom de Tepes, anciennement prince de Valachie, et que l'heureux futur marié fut jadis, pour des raisons que je ne prétends pas comprendre, un catholique romain. Le premier ministre brandit une lettre apparemment prise au hasard dans les piles de correspondance ignorées, qui encombrait les divers bureaux de sa salle de réception de Donnie. Godalming le connaissait trop bien pour tenter de l'interrompre dans un de ses accès de loquacité, pour un ressuscité avec des trinitiés le secret détenu par les anciens. L'écoute attentive d'un homme mort, vieux de plusieurs siècles, constitue une occasion incontournable d'apprendre. Quand Ruthven se mettait à discourir de la sorte, il dispensait des sommes de vérités éternelles, et il était difficile de ne pas se laisser captiver par la force de sa personnalité. J'ai ici la missive d'une misérable société qui se voit perpétuer le souvenir inutile des post-constitutionnalistes rasoirs du feu Walter Bajot. Il targue que le prince ait accepté le baiser de l'église anglicane très peu de temps à celui de la reine, et il juge cela indécent. Notre correspondant va jusqu'à suggérer que Vlad ne serait pas totalement sincère dans son abjuration du pape de Rome et qu'avec la complicité du insidieuse de Léon XIII, dont Jérémie, certains imbéciles pardonnent plus aisément d'aimer le sang des vierges que d'avoir bu le vin de la communion. On est en plein dans cet univers parallèle où on a plein de références culturelles, historiques, réelles. Dracula est réellement Tepes et Prince de Valachie, mais évidemment, on se rend bien compte que dans cette Grande-Bretagne, dans ce Royaume-Uni un peu étrange, le règne de la reine Victoria se fait en compagnie de Dracula, c'est-à-dire le vampire des vampires. Qu'est-ce qui vous a amené, Kim Newman, à présenter, vous qui avez l'air finalement très emblématique de la vision pour nous français que nous avons du Royaume-Uni, d'être aussi décalé et finalement un peu caustique, j'ai l'impression, sur gloire et espoir, sur la tradition britannique.
I plead guilty to being British, and I suppose I plead guilty to embodying a stereotype of Britishness in some ways. I think most of us do, and I'm afraid, when I look around, I see a lot of French stereotypes here. I think maybe that's partly to do with our imperfect understandings of each other's languages. We tend to simplify when we look. But in this particular case, I was trying to create actually not so much a parallel or an alternative world, but a vision of the world as it was, as it is, sort of scrambled together, where the major addition, the major change from reality, being the existence of the character of Dracula. Served to highlight things that were actually going on then and continued to the point when I was writing the novel and continued to the present day.
Je plaide coupable, je suis effectivement britannique et je veux dire personnellement qu'en déambulant dans les allées du parc ici, je trouve que je rencontre beaucoup de stéréotypes français aussi, de ce que moi j'imagine sont les Français. Et je pense que tout ça est parce qu'on ne se comprend pas très bien, en fait. Quand on ne parle pas la langue l'un de l'autre, on finit par avoir des idées, se faire une idée donc, de stéréotypes, et on cherche à simplifier. Et donc, personnellement, je me l'avouais que je n'ai pas, dans Anno Dracula, cherché à créer un univers parallèle, tant qu'à explorer le monde tel qu'il est et tel qu'il serait, éventuellement, si Dracula, véritablement, avait épousé la reine Victoria. Et donc, pour moi, c'est une manière d'explorer où nous en sommes aujourd'hui, pourquoi, donc le comment du pourquoi on a évolué ainsi et comment on aurait évolué si la situation avait été autre. Donc ça me permet d'évaluer le monde tel qu'il est, mais aussi le monde tel qu'il serait, le monde tel qu'il était et tel qu'il aurait été.
Le monde tel qu'il sera peut-être avec Christopher Priest. Parents étaient cette nuit-là convaincus qu'ils allaient revenir, devoir rester à la clinique indéfiniment. En un sens, il avait raison, puisque ce fut leur dernière nuit ensemble, Après la mort de Mélanie, le reste du personnel médical et humanitaire fut à ce point démoralisé qu'ils fermèrent progressivement la clinique, abandonnant la population locale à la chaleur, à la sécheresse et aux miliciens. Ils ne retrouvèrent jamais le corps de Mélanie, elle partit dans l'après-midi. Le lendemain de leur dispute, bouillant de rage à son rencontre, annonçant qu'elle voulait être seule, il la laissa partir sans un mot. Leur querelle les blessait toujours tous les deux, parce que leur différence recevait un engagement indéfectible et un amour véritable. Pour Tarin, une des raisons les plus pressantes de s'échapper de la clinique était son désir de réparer les dégâts que leur causait cette phase. Et ce jour-là, sachant qu'il la regardait avec impuissance, Mélanie enfila le gilet en Kevlar par-dessus sa tenue d'infirmière, attrapa un fusil, puis d'une gourde et une radio, suivit la procédure. Mais quitta la sécurité de l'enceinte à l'une des heures les plus dangereuses de la journée. Lorsqu'une explosion résonna à proximité, il eut l'habituel comptage immédiat des effectifs, révélant qu'il manquait. Personne n'avait été témoin de l'attaque, et l'un des agents hospitaliers dit que juste avant l'explosion, il avait remarqué un point lumineux dans telle direction, quelque chose dans l'air, plus haut que ne le serait un arbre, et si brillant qu'il en avait eu mal aux yeux. Tous les gardes et certains membres du personnel médical sortirent avec des véhicules blindés pour aller voir. Parente était dans le véhicule de tête, c'est très situations, à nos inquiétudes et à ce qui peut se passer dans des pays comme y compris le nôtre. Mais néanmoins, on est plongé comme toujours dans ces romans-là aussi dans le mystère. Est-ce que justement dans ce nouveau roman, Christopher Price, vous avez voulu mélanger à la fois le mystère de l'imaginaire et néanmoins l'imprégnation de notre époque?
Writers, I try to tell the story the best way I can with the ability I have, and hope for the best. Most of my writing is very instinctive. I don't plan too far ahead. That particular passage was written in a state of emotion, really. Not my emotion, but a feeling of emotion about the situation. That's a sequence of description of loss and kind of puzzled anger by something awful that's happened to someone you love. The rest of the book is a pursuit of that, to try to find the woman who was killed, taken away from me. There is no one part of the adjacent that could be read or singled out. Explain what the rest of the book is like. It's a book of many different colours. But the main story is that one, the one with the young man whose wife has been killed.
Je pense que, comme la plupart des écrivains, je m'efforce de raconter l'histoire de la meilleure façon dont je suis capable avec les capacités dont je dispose. Et puis ensuite, espérer que ça se passe bien. La plupart de mon écriture est plutôt instinctive, c'est-à-dire je ne prévois pas trop à l'avance ce qui va se passer. Le passage que vous venez de lire, je l'ai lu avec une émotion très forte qui n'était pas lui-même personnellement, mais l'émotion de ce personnage qui vient de vivre cette scène de perte assez terrible, et très hanté par cette colère mêlée d'interrogation. Il vient de se passer quelque chose de terrible qu'on ne comprend pas, une personne qu'on aime. Et le livre se fonde beaucoup sur l'exploration et la continuation de cette peur. On a ce personnage qui s'efforce de trouver cette femme qui vient de tuer ou qu'on vient de lui prendre. Je pense pas que dans le roman il y a un seul extrait qui puisse éclairer ou expliquer l'ensemble du roman. Il y a beaucoup de textures et d'ambiances différentes, même s'il y a une histoire principale. Le thème principal, c'est ce que vous venez de lire, c'est-à-dire c'est la douleur de ce jeune homme face à la perte de la femme qu'il aime.
M'intéresse un petit extrait là aussi pour donner à entendre votre voix dans celle qui est au lido. Blague à part, continue-t-il, vous perdez votre temps. Si vous tenez à leur raconter des histoires, parlez-leur de Jack l'éventreur de Ken Bundy. Ce sont des enfants, fait remarquer Mademoiselle J. Non, sur le plan psychologique, si. Ah bon, au chef de la psychologie, c'est Sergent qui paraît en colère maintenant. Justement, voilà pourquoi il ne faut pas leur lire Winnie l'ourson. Si vous continuez comme ça, vous ne tarderez pas à les percevoir comme de vrais enfants. Et là, vous ferez un faux pas. Vous en détacherez un de son fauteuil parce qu'il aura besoin d'un câlin ou autre. Pas besoin de faire un dessin sur ce qui se passera ensuite. Sergent s'avance vers les premiers rangs de la classe et là, il a un geste vraiment horrible. Il remonte sa manche bien haut, jusqu'au coude, puis il met son avant-bras dénudé devant le visage de Kenny. Il se tournait à 2-3 cm, pas plus. Au départ, il ne se passe rien, mais ensuite, Sergent se crache dans la main, il frotte la salive sur sa peau, comme pour effacer quelque chose. Arrêtez, dit Mademoiselle Justine, ne lui faites pas ça. Sergent ne répond pas, ne la regarde pas. Comme Mélanie est assise devant derrière Kenny, rien ne lui échappe. Kenny se réduit très très fort, puis sa bouche se met à baisser, et il essaie de refermer les mâchoires autour du bras de Sergent, qu'évidemment il ne peut pas atteindre. Ensuite, la baffe commence à dégoudiner au coin de ses lèvres, mais pas beaucoup. Parce que personne ne donne jamais rien à boire aux enfants. Alors ce qui sort est épais, pas que, et pendouille au bout du menton de Kenny, qui pousse un grognement, puis claque à nouveau des dents en émettant de petites plaintes. C'est déjà affreux, mais ça empire parce que les gamins assis de chaque côté de Kenny se mettent à l'imiter, comme si c'était un type qui lui avait emprunté, et ceux qui se trouvent juste derrière tressaillent et tremblent. On dirait que quelque chose leur forme des coups très durs dans l'estomac. Vous voyez le ventre sergent en se retournant vers Mlle Justineau pour se observe à l'intention du flanquer une gifle. Là, sachant laisse retomber son bras, il hausse les épaules comme si tout ça n'avait jamais eu aucune importance pour lui de toute façon. Tout ce qui ressemble à un être humain n'en est pas forcément un, explique-t-il. Exact, approuve mademoiselle Justino. Sur ce point-là, je le suis tout à fait. Ce passage qui met bien en scène le paradoxe où ces zombies dangereux, cachés, mais qui sont néanmoins des enfants, apparaissent comme moins monstrueux que le sergent qui est chargé de les surveiller et qui, en voulant faire une démonstration de dangerosité, finalement, montre peut-être à ce moment-là l'histoire. Ce personnage évoluera-t-il, vous le verrez. À ce moment de l'histoire, peut-être montre-t-il que la vraie inhumanité, la vraie dangerosité, c'est lui. Est-ce que c'est ça que dans cette scène, vous avez voulu montrer Malgari?
Rester extrêmement longtemps et on voit que le public est extrêmement assidu puisqu'au fond, merci à eux, plusieurs dizaines de courageux sont restés debout. C'est un beau pays, le Royaume-Uni, c'est beaucoup de très beaux auteurs, de grands talents. Ce sont des écrivains que je lis avec énormément de bonheur, j'espère que vous aussi. Mais si ce n'est pas encore le cas, le fait de les avoir invités, ces quatre écrivains, très divers, mais tous passionnants. C'est une façon de vous montrer que la science-fiction et la fantasy britannique, l'imaginaire britannique, pour ceux qui n'aiment pas les étiquettes, c'est quelque chose de puissant, d'original, qui mérite votre attention, votre lecture. C'est quelques-uns des grands écrivains de ce pays. On est fiers d'avoir invité nos amis britanniques et on vous encourage à vous précipiter à la fin de ce café littéraire pour les rencontrer à la Bulle du Livre et pour acheter et faire signer vos bouquins. Macaré, celle qui a tous les dons. Un roman tout à fait merveilleux, l'adjacent, le dernier roman de Christopher Priest, une œuvre qui parle pour elle-même, et chaque roman est attendu par ses amateurs. Accelerando, Charles Cross, Prilocus, un vrai roman de science-fiction, tout à fait passionnant, et qui nous montre aussi ce que peut être la modernité et parfois ses inquiétudes. Et puis aussi, Anno Dracula, Kim Newman et son autre.